Alors, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans mon intervention sur les archives du féminisme, je voulais vous expliquer un petit peu quel était mon point de vue et en fait dans quel contexte mes recherches se déroulaient. Donc, cette intervention est le résultat en fait du fruit d'une réflexion collective sur la question du don d'archives et du don de documents. Et l'objectif de cette réflexion, c'est en fait de s'interroger sur les interactions qui existent entre les collecteurs de fonds, les donateurs et les usagers, et aussi d'observer les stratégies qui sont mises en place par les différents acteurs. Donc pour ma part, dans ce contexte-là, j'ai réalisé une étude de terrain et une enquête orale au Centre des archives du féminisme. Et donc dans mon diaporama, vous verrez à plusieurs reprises des citations qui sont en fait qui viennent de cette étude et de cette enquête orale. Et aujourd'hui, j'ai élargi ma recherche, disons, auprès des militants politiques et syndicaux. D'une manière plus large, mes recherches donc s'inscrivent dans un axe qui est celui d'une histoire des pratiques professionnelles en archives et en gestion documentaire. Et puis, peut-être aussi ajouter que le regard que je porte en fait sur ces questions-là est certainement aussi conditionné par cette vie professionnelle antérieure d'archiviste qui m'amène peut-être à regarder les choses dans un axe un peu déplacé par rapport au regard, par exemple, de l'historien. Donc j'ai choisi pour titre de mon intervention les archives du féminisme entre collecte compensatoire et outils politiques. Les questions qui se posent sont des questions que vous avez déjà abordées hier, sont les suivantes. En quoi le processus archivistique participe-t-il de l'effacement de telle ou telle communauté dans l'écriture de l'histoire, en l'occurrence pour mon objet d'étude de l'histoire des femmes? Comment et pourquoi les actrices organisent-elles ces centres? Avec quelles réflexions, quelles revendications et dans quel écosystème archivistique? Et y a-t-il une spécificité française ou doit-on rapprocher ces programmes d'autres programmes observables dans le monde sous le vocable d'archives de communauté? Alors, archives de communauté, c'est une expression qui s'est généralisée depuis une dizaine d'années dans le monde anglo-saxon. L'archiviste et universitaire Andrew Flynn parle même d'un mouvement des archives communautaires. Mais encore faut-il définir cette expression et la définir, je dirais, positivement et négativement. Il ne suffit pas, en fait, qu'on s'intéresse à des archives privées ou qu'on s'intéresse à des archives privées qui émaneraient d'une communauté pour autant parler d'archives de communauté. Alors, en France, l'intérêt des institutions publiques pour les archives privées est ancien, même si on peut dire qu'il n'y a vraiment de politique nationale que depuis la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, en France, il n'y a pas de processus archivistique de type approche fonctionnelle ou macro-évaluation, qui sont des processus qu'on va trouver dans d'autres pays, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. La macro-évaluation a pour objectif en fait de mesurer la représentativité des documents qui sont collectés et les écarts entre ceux dont ces documents témoignent et d'autres, et je cite ici des expressions en fait qui viennent du guide de pratique de Bibliothèque et Archives nationales du Canada, donc d'autres éléments narratifs afin de permettre aux archivistes de documenter, entre guillemets, des vérités concurrentes, et pas seulement, toujours entre guillemets, des voix dominantes. Donc pour faire simple et opérationnel, la macro-évaluation permet de déclencher des collectes compensatoires raisonnées pour combler des manques qu'on a mis en évidence dans ce processus. Pour autant, l'existence d'une collecte compensatoire ne suffit pas à définir des archives de communauté. Alors, pour définir ces archives de communauté, trois critères seraient à l'œuvre. Et je suis ici l'exposé de Patrice Marciou dans son livre sur les égo-archives, traces documentaires et recherches de soi. Donc, ces trois critères seraient que les archives documentent l'histoire d'un groupe social qui lui-même se revendique comme communautaire. Le deuxième critère est que les opérations de collecte, de conservation, de mise en valeur doivent être prises en charge de manière significative par la communauté elle-même. Elle s'appuie ou elle ne s'appuie pas sur des institutions publiques, mais elle est actrice de ce processus. Et la conservation est motivée par une valeur particulière pour la communauté qui est autre qu'un simple loisir. Donc ça doit lui servir à quelque chose, lui servir comme élément de preuve, lui servir comme ressourcement militant. Autrefois, on aurait dit constituer un intellectuel organique. Concrètement, ça se traduit par deux types de programmes différents. Des institutions publiques qui mettent au point donc, des programmes d'archives en direction d'une communauté. Typiquement, c'est le programme d'archives ethniques, bibliothèque qu'on trouve au Canada, qui est mené par la Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Ce sont les actions envers les Maoris en Nouvelle-Zélande. On peut rapprocher ça aussi, par exemple, des actions qui sont menées par l'Agence de développement culturel française envers les Kanaks. Donc ça, c'est un premier type de programme. Et puis un deuxième type de programme, ce sont des communautés qui prennent en main directement des actions d'archivage. Alors, dans ce second cas, quand ce sont des communautés qui prennent en main directement le processus archivistique, eh bien évidemment, elles revendiquent très fortement leur indépendance. Alors après, elles ont du mal à se passer d'argent public pour la pérennisation des projets. Et ça se traduit notamment par le fait qu'elles prônent en fait une auto-formation au métier d'archiviste et une transmission interne de cette compétence archivistique. Donc il y a en fait ça s'accompagne d'un refus de la professionnalité du métier d'archiviste. Alors, je vais concentrer mon propos sur une étude de cas qui est l'Association Archives du Féminisme et sur le Centre des Archives du Féminisme qui est un centre de conservation d'archives féministes à vocation nationale qui est situé à Angers et dont une partie de l'objectif, c'est de capter des fonds mouvants, fragiles, difficiles à saisir et qui sont parfois, pas toujours, mais parfois produits dans un contexte contestataire qui fait qu'ils sont effectivement difficilement accessibles habituellement. Je ferai éventuellement parfois des références à d'autres projets. Alors le féminisme associe de particulier qui le revendique pour la femme, sa place dans l'histoire, sa visibilité. Les féministes, et avec elles les historiens, historiennes, militantes ou non, s'intéressent aux conditions de production, d'accumulation et de préservation des traces archivistiques qui résultent, et je cite ici Michel Perrault, d'une sédimentation sélective produite par les rapports de force et les systèmes de valeur. Fin de citation. D'où une volonté de corriger les effets générés par la consultation d'archives publiques ou de fonds privés mais collectés par des services publics qui sont analysés en fait comme des miroirs déformants car déformés par les rapports sociaux et donc une ultime expression du système patriarcal. Plus largement, ces fonds d'archives donc, qui se trouvent dans les institutions publiques seraient constitués par des groupes sociaux pour qui le rapport à l'écrit est naturel, à l'exclusion d'autres groupes qui sont moins à l'aise avec l'écrit, ou qui le rejettent. Et là, il y a aussi une spécificité féministe, parce qu'on peut penser aux années MLF, aux années 70, qui se signalent par l'absence de traces écrites et par un refus parfaitement conscient et revendiqué de la transmission et de la filiation. Il y a toujours cette difficulté pour un certain nombre de féministes qui ont refusé la maternité, là, de aussi transmettre des traces écrites. Dès lors, la collecte et la conservation d'archives peut apparaître comme un moyen de reconnaître à ces groupes et ces individus donc une fonction dans l'histoire et de corriger les effets d'une domination et éventuellement d'alimenter une militance. Alors bien sûr, ce mouvement est à rapprocher des évolutions historiographiques et de la réflexion sur l'histoire des groupes sociaux, sur l'écriture biographique de l'histoire, sur le rôle du témoin dans l'écriture de l'histoire ou sur la micro-histoire. Alors à la fin des années 1990, les archives féministes, ou tout simplement les archives de femmes, intéressent peu de structures en France. Il existe à Paris un lieu, la bibliothèque Marguerite Durand, qui est l'institution publique de référence aussi bien dans les milieux scientifiques que militants. Et à côté de cette bibliothèque, il n'y a pas de politique de collecte raisonnée dans le réseau des archives publiques en direction des fonds privés de femmes. En revanche, évidemment, les archives publiques collectent tout ce qui relève du féminisme d'État, ça ne pose pas de difficultés. Le résultat est que les associations ou que les personnes qui souhaiteraient confier leurs fonds d'archives ne savent pas vers qui se tourner. Et l'exemple le plus douloureux ou le plus frappant, ce sont les 55 mètres du Conseil international des femmes qui n'ont pas trouvé preneur en France, personne n'en a voulu, et qui ont été accueillies en Belgique au sein du Centre d'archives pour l'histoire des femmes, le CARIF, à Bruxelles. Donc il y a une forme de sous-équipement en France par rapport à d'autres pays. L'association Archives du féminisme est née de ce constat, en fait, de ce constat de manque. Mais elle est née aussi d'un besoin très précis qui est de trouver un lieu d'accueil pour le fonds Cécile Brunjvic. Donc Cécile Brunjvic, présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes et ministre du Front populaire, un fonds qui avait été spolié pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite était parti à Moscou et qui fait partie des fonds dits russes. C'est le fonds russe numéro 280, qui a été restitué à la famille, alors c'est la famille Baruch, donc avec un historien important, qui est petit-neveu, je crois, de Cécile Brunjvic. Et donc, ce fonds a été proposé à la bibliothèque Marguerite Durand, il était trop volumineux, et il a fallu... Il y a eu une mobilisation en fait, pour trouver une solution pour accueillir ce fonds. C'est à ce moment-là donc, que Christine Barre, qui est enseignante, chercheuse, mais aussi féministe, hein, qui est aussi militante, initie l'association Archives du féminisme et trouve à Angers une conjonction favorable avec un lieu de recherche en histoire des femmes et du féminisme, une bibliothèque universitaire qui est déjà sensibilisée à la question de ce qu'on appelle en bibliothèque les fonds spécialisés, que nous on appelle les archives, et une expertise archivistique parce qu'existe une formation en archives, et puis des forces vives parce qu'il va falloir classer ces fonds, et il va falloir aussi les traiter et les exploiter. La structure qui est capable d'accueillir rapidement ces fonds, c'est donc le Centre des archives du féminisme, qui est une construction très originale dans le paysage archivistique français, inspiré de centres d'archives qu'on trouve adossés à des universités dans d'autres pays. Ce Centre des archives du féminisme, CAF, existe en fait par une convention entre l'Université d'Angers et l'association, chacun ayant un rôle bien identifié. C'est important parce que ça a des incidences sur la manière dont les fonds entrent, et en particulier sur leur statut juridique, parce que le Centre des archives du féminisme n'a pas de personnalité morale. Donc il ne peut pas signer de contrat de dépôt ou de don. Ce CAF est piloté par un comité de suivi qui convie des membres extérieurs qui appartiennent au réseau des archives publiques, en particulier Archives nationales, hein, représentant des archives privées aux Archives nationales, tout ça pour assurer une concertation et puis aussi pour éviter des éventuels effets de concurrence entre les centres. Alors l'association Archives du Féminisme ne se résume pas au Centre des Archives du Féminisme. Elle se veut et elle se vit comme un outil de valorisation de centres de ressources spécialisés et un outil de popularisation des études sur les femmes et sur le genre. Alors elle s'intéresse beaucoup au fond audiovisuel. Elle possède sa propre collection d'entretiens qui s'appelle Témoigner pour le féminisme. Il y a à peu près 34 DVD à l'heure actuelle. Donc là, il s'agit d'aller interroger des témoins, justement en particulier des années 70, pour lesquels il y a peu de traces. Elle collecte des fonds audiovisuels, elle diffuse des travaux de recherche dans le domaine du féminisme, notamment par la collection Archives du Féminisme aux presses universitaires de Rennes, mais elle fait aussi des actions plus grand public, conférences, débats, lecture théâtralisée d'archives, ou d'autres actions de ce type-là. Elle cherche à développer en fait des convergences entre différents réseaux pour susciter la collecte, encourager la préservation des fonds féministes. Et ce qui en témoigne le mieux, c'est le guide des sources de l'histoire du féminisme, qui est aujourd'hui épuisé, mais qui existe en ligne. L'association a trouvé des relais institutionnels qui ont permis sa légitimation immédiate. Elle s'appuie sur des compétences locales, donc un traitement, une valorisation rapide des fonds. Et avec ses partenaires, elle établit une chaîne qui permet l'exploitation des archives à plusieurs niveaux. Donc elle est vraiment présente du début à la fin. Et au fil des années, elle a tendance à devenir un réseau en fait, de bibliothèques et de centres d'archives spécialisés, qui a toujours en son centre la question des archives, mais c'est presque plus un réseau qu'un centre en lui-même. Alors le CAF, si on regarde d'un peu plus près justement son mode de fonctionnement, son périmètre de collecte, et puis les quelques enseignements qu'on peut tirer de son bilan. Donc ce centre accueille des archives, des fonds de personnes et des fonds d'associations. Un rythme de collecte qui est d'environ 2 à 3 fonds par an, ce qui suffit à son bonheur, en ce sens que ça permet un traitement très rapide des fonds. Donc une trentaine de fonds en 10 ans. Il reçoit des dons et des dépôts, donc là je vous passe, mais c'est une construction très compliquée parce qu'il n'a pas la personnalité morale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe toutes sortes de combinaisons. Des dons en une seule fois, des dons en plusieurs fois, des dépôts qui deviennent des dons, et des contrats de dépôt ou de dons qui ne sont jamais signés, malgré les différentes relances. Néanmoins, on peut quand même constater que globalement, ce sont quand même plutôt des dons, plutôt que des dépôts. Alors, si on compare avec d'autres centres, qui ont des fonctionnements proches ou qui ont des thèmes de collecte proches, on va avoir en fait des informations assez éclairantes. Donc la première comparaison que je voudrais faire, c'est avec Archives, Recherche et Culture Lesbienne, qui se trouve à Paris, qui est un mouvement qui s'est constitué dans les années 80 en rupture avec le féminisme homosexuel et le mouvement homosexuel mixte, et qui a un centre de documentation, qui a quelques fonds d'archives, et donc qui réserve l'accès à ces fonds uniquement aux femmes. La seconde comparaison que je voudrais faire, c'est avec un centre qui recueille des archives associatives et de militants politiques associatifs syndicaux, qui est le Centre d'Histoire du Travail de Nantes, où on constate, donc qui s'appuie, qui est aussi adossé à des institutions publiques, on constate que là, tous les fonds qui entrent, entrent sous le régime juridique du dépôt. Autrement dit, ils sont révocables du jour au lendemain. Et ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas des entrées stables. Enfin, il y a toujours cette épée de Damoclès de la révocation du dépôt. Et le deuxième point, c'est que ben, y a quasiment pas non plus de communication, au sens où toutes les communications sont soumises, presque toutes, à l'autorisation du déposant. Donc là, on voit des centres qui ont érigé un mode de contrôle ou d'usage restreint à des militants, Et à contrario, on peut constater que ce n'est pas du tout le cas du Centre des archives du féminisme, où les fonds sont largement ouverts à tout type d'utilisation et de diffusion. Alors, pour justement comprendre ces différences d'attitude, il faut à un moment effectivement essayer d'interroger un peu la motivation des donatrices et donateurs. Alors, pour tout dire, il y a un donateur hein, sur l'ensemble des fonds du Centre des archives du féminisme, donc je vais avoir plutôt tendance à parler des donatrices que du donateur. Et donc, pour mieux cerner leur motivation. Au premier rang donc, des motifs qui sont invoqués pour se séparer des archives figure, j'ai envie de dire d'une manière... il n'a pas dit ça, mais enfin, la question de la place. Donc les archives encombrent. C'est un encombrement matériel, palpable, ça c'est évident, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est aussi un encombrement mémoriel. On ne sait pas que faire de cette masse accumulée et la question est clairement de se décharger d'un fardeau, de passer le relais et de transmettre. Ce qui motive le don d'archives, c'est vraiment de passer la main. Et d'ailleurs, quand ce don est effectué, eh bien, les donatrices nous disent... enfin, emploie des mots forts comme un soulagement, une délivrance. Donc, c'est vraiment un poids qu'on leur a ôté. Alors, ce poids est ôté parce qu'il transfère la responsabilité de la transmission. Cette transmission n'a pas pu s'opérer entre les donatrices qui ont en général entre 60 et 85 ans. C'est à peu près la tranche d'âge. Donc, cette transmission n'a pas pu s'opérer à la génération qui les suit immédiatement. Et en fait, elle cherche une solution pour transmettre quand même en sautant une ou plusieurs générations. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas permis de transmettre immédiatement. Donc au fond, le fait de transmettre ces papiers, c'est vraiment un ultime acte militant. Et on note qu'elles sont extrêmement sensibles au fait que le traitement archivistique va être effectué par des étudiants, donc par des jeunes gens. Et elles apprécient énormément ce contact-là, le fait qu'à travers le fonds d'archives, elles vont rétablir un contact avec de jeunes gens. Donc, dans ce contexte-là, le don et la remise de papier a vraiment pour fonction d'alimenter la relation interpersonnelle et de nourrir du lien social. C'est un don entre générations, un don transversal, asymétrique, qui est vraiment fait dans l'espoir qu'à l'avenir, ces parcours de vie vont intéresser des jeunes gens et faire germer la graine du féminisme en eux. Voilà, ils sauront où aller. Cette volonté de passer le flambeau, de transmettre à des jeunes générations, induit une attitude particulière par rapport au travail de l'historien et de l'archiviste, mais dans leur idée, c'est de l'historien. Dans tous les cas, les donatrices et les déposantes de fonds effectuent cette démarche de dessaisissement de leurs papiers dans l'idée, dans l'espoir, d'une exploitation historique. De ce point de vue, le mandat est clair, et là je cite une collectrice qui intervient dans ce centre, elles vont vers l'outil qui leur permettra d'accéder aux historiennes. Celui qui va, je cite toujours, permettre aux chercheurs de mettre en valeur la mémoire. Alors, dans certains cas, il peut s'agir d'une volonté de faire reconnaître le rôle propre de la donatrice ou celui de son association. Donc, il peut y avoir des enjeux personnels, par de naïveté. Mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, il n'y a pas d'enjeu personnel. Et au contraire, confier ces archives, c'est vraiment témoigner d'une aventure collective. Alors l'engagement féministe se traduit généralement par un polymilitantisme, un empilement de participation à des mouvements politiques, associatifs, groupes plus ou moins informels, qui s'agrègent eux-mêmes en fonction d'objectifs communs, parfois ponctuels, enfin c'est extrêmement compliqué. Et surtout, chaque militante est prise dans un faisceau, en fait, d'engagements parallèles, croisés, successifs. Et la productrice d'un fonds, par la typologie même des documents accumulés et par l'enchevêtrement justement des actions dont il témoigne, pressent qu'à travers son cas personnel, elle rend vraiment témoignage d'un mouvement plus général. À travers la cession d'un fonds, les donateurs, producteurs ayant droit essaient de rattacher des traces de vie individuelle ou associative à une histoire plus globale, voire à la grande histoire. L'histoire militante sont généralement écrites, l'histoire de vie, je pourrais revenir si vous le souhaitez là-dessus, sont généralement écrites par les donatrices avant même qu'elles confient leurs fonds. Elles ont souvent participé à des travaux historiques ou mémoriels, elles ont eu des contacts avec des historiens. Et le projet historique, justement, permet de dépasser l'éventuel sentiment d'impudeur ou de vanité qui a plutôt comme conséquence de retenir en fait le don, d'empêcher le don, et de prendre conscience qu'au travers d'un parcours individuel, ce sont bien des traces collectives qui sont proposées à l'historien. Je cite, « Cela fait partie de l'histoire de France, on représente une part de l'histoire des femmes, on recèle une part assez forte de l'histoire des femmes, ce n'était pas moi, c'était les femmes. » Alors un exemple illustre ce processus, l'UFCS, l'Union Féminine Civique et Sociale, a pensé à se séparer de ses papiers après avoir longuement travaillé sur son histoire. Alors, dans une première phase dans les années 1980-90, et puis de nouveau dans les années 2000. Et c'est une fois ce retour sur soi achevé, le passé exploré, réinvesti, la parole des témoins consignée, à ce moment-là, les documents peuvent changer de main, et ils peuvent aussi prendre le risque d'un autre décryptage, d'un regard extérieur. Alors la décision prise, le lieu choisi, il faut délimiter ce qu'on veut bien donner. Et là, on s'aperçoit que les donatrices ont une idée assez précise de ce qu'elles veulent effectivement laisser et de ce qu'elles veulent garder par-devers elles. Et pour la mettre en œuvre, cette idée, elles vont manipuler les documents, les exhumer, revenir en arrière dans leur parcours de militante et effectuer un tri. Cette préparation du fond, qui est inévitable, est l'occasion de la construction ou de la reconstruction d'un discours sur soi et sur le contexte dans lequel on a évolué. Jacques Derrida a identifié dans ce qu'il appelle l'archivation une tension entre une volonté de consignation, de capitalisation de la mémoire et un désir d'effacement. Ça se traduit en fait par ce tri. Elles disent qu'elles élaguent, elles trient avant de jeter un peu, beaucoup. Elles séparent les archives mortes des autres. Le fonds d'archives n'est jamais livré brut. Il est toujours taillé pour faire ressortir telle ou telle facette. Il est d'ailleurs accompagné et même précédé d'un récit autobiographique oral, ou écrit d'ailleurs, mais oral toujours. Un récit de vie, je reprends l'expression de Christian Autain, et ce récit est renouvelé à chaque contact avec les dépositaires. C'est une citation d'une collectrice qui explique bien qu'effectivement, il y a à chaque fois un récit qui est remis en scène, et en même temps, ce récit est assez déconnecté presque du fond d'archives qu'on a en face de soi ou des documents qu'on a en face de soi. Et voilà, il n'y a pas toujours cohérence entre les deux. Alors ce récit de vie assume deux fonctions. Il est une captatio benevolentiae, c'est-à-dire qu'il rend compte de l'éthos de la donatrice, il justifie sa requête et il cherche à montrer par la mise en scène du parcours, par l'image qu'elle se donne d'elle-même, par l'anamnèse, son adéquation avec le mandat du lieu de conservation. Ce récit aussi est une ultime tentative de contrôle avant le dessaisissement final que constitue la remise des papiers, car il est l'occasion pour la donatrice d'exposer sa version de l'histoire, de l'exposer, de le réexposer. Alors le récit de vie n'est pas la seule manière de tenter d'influer sur l'archiviste. On trouve parfois dans le fond lui-même comme des petits cailloux abandonnés pour tracer un chemin. Des annotations qui sont contemporaines de la mise en forme du fond et qui ont pour vocation de le guider vers ce qui est important ou d'imposer une interprétation. Donc là, je vous montre l'exemple d'un fond où, comme ça, sur toute une série de documents, on a des petits post-it qui nous ont été gentiment laissés par le producteur du fond pour nous expliquer bien comment il faut qu'on comprenne le document et quelle importance ça a par rapport à son parcours de militant. On notera que d'une manière ou d'une autre, les déposants ou les donateurs s'efforcent de modeler les fonds transmis dans deux directions. Alors, ils essaient de les rendre conformes à ce qu'ils croient être les attentes du centre. Ce n'est pas forcément les attentes du centre, mais ce qu'ils imaginent que le centre attend. Et ils en extraient tous les documents qui ne leur semblent pas utiles à la transmission militante qu'ils veulent réaliser. D'où ce constat frappant du caractère lacunaire de la plupart des fonds. Comme nous dit une donatrice, oh là là, vous ne pouvez pas savoir le nombre de camions bennes qu'on a fait partir, ce qui est évidemment toujours très douloureux pour l'archiviste à entendre. Une collectrice témoigne d'ailleurs de négociations pièce à pièce. Le donateur m'invitait à trier avec lui, d'ailleurs elle raconte très bien. C'est une lutte en fait constante pour essayer de récupérer des dossiers et donc il y a une négociation qui va s'opérer en fait quasiment sur chaque dossier, voire sur chaque pièce à l'intérieur des dossiers. Alors après il y a une forme de lassitude hein, parce qu'au début on trie pièce à pièce, notre donatrice l'explique bien, au début on trie pièce à pièce, après dossier, bon, après on se fatigue également. Le camion mène, ça peut arriver. Ou alors là, le collecteur arrive au bon moment et récupère la fin. Un autre facteur qui influe sur la sélection de ce patrimoine archivistique en formation résulte de l'éthos militant qui a tendance à effacer le personnel pour privilégier le collectif. Cet éthos a pour conséquence archivistique d'effacer des fonds, les documents jugés trop individuels, les choses très personnelles, la correspondance. Ainsi, les papiers vraiment privés, donc les documents de carrière, les documents de famille, sont quasi absents, et puis les courriers, enfin les correspondances surtout, sont quasi absents dans les fonds de personnes. Les documents confiés, en revanche, font la part belle à l'activité militante, politique, mais aussi et surtout associative. Ce que l'on saisit et ce que l'on nous donne à voir, c'est l'individu en action et en interaction dans le groupe. J'ai trié un peu, c'était un cas de conscience, voilà, comme ça toute une série de réflexions sur cette question-là de la part des donatrices. À ce titre, les fonds intègrent plus de documents reçus, c'est leur caractéristique, que de documents produits par la personne. Ce sont des supports de réflexion, archives de l'action et non de l'introspection, elle convoque les matériaux de la pensée, mais ne livre pas son intimité. L'individu s'efface derrière son implication militante. Les typologies documentaires des fonds militants conservés au centre des archives du féminisme sont d'ailleurs notablement différentes de celles qu'on rencontre habituellement dans les archives de femmes. On peut ici transposer la distinction que Valérie Féché a pu établir dans le huis clos familial entre mémoire froide et mémoire chaude, donc une mémoire chaude plus émotive, dans notre cas dont la correspondance serait l'emblème. Et donc Valérie Féché montre dans le huis clos familial que chaque mémoire occupe des espaces différents dans la maison. De ces mémoires chaudes et froides, les donatrices ne transmettent que la froide, conservant les documents donc les plus émouvants par-devers elles, quand bien même ces documents pourraient pourtant servir à la fois leur volonté de transmission et leur désir d'histoire. Alors, y aurait-il une volonté de contrôle plus ou moins affirmée de la part des donatrices ou des déposants sur l'usage futur des documents ? On a déjà vu que, pas du point de vue de la communication, pas du point de vue du statut juridique d'entrée, certes des indices qui nous sont laissés pour qu'on les, pour qu'on les suive ou qu'on les comprenne, mais la question est complexe et ne se résout pas simplement. Le contrôle, en fait, principal, s'opère par le choix même du lieu de conservation. Saisir le centre des archives du féminisme et être accepté par lui, c'est obtenir la garantie de faire partie d'une histoire des féminismes. Et c'est se revendiquer comme un acteur de cette histoire. Et là, je cite une donatrice, et je pense que c'est vraiment ça. Normalement, on entrait tout à fait dans les critères de sélection des archives du féminisme. Si les donateurs acceptent de devenir un matériau mémoriel, dans un mouvement de retour sur soi ou de réflexion sur l'histoire d'un combat qui souvent a été celui d'une vie, c'est bien sûr aussi parce qu'ils sont dans une situation de confiance, dans un univers proche du leur, avec des interlocuteurs qui fréquentent les mêmes réseaux qu'eux. Alors l'association a choisi un nom polysémique, un archive du féminisme, qui met bien sûr en avant la notion d'archive et la référence militante au féminisme. Et dans ces deux mots peuvent se retrouver des personnalités d'origine et d'intérêts différents, militantes ou non. L'association en elle-même n'est pas une association féministe, mais elle est perçue comme telle, et bon nombre de ses membres sont aussi des militantes. Et donc cette ambiguïté, bien sûr, joue beaucoup, enfin est très importante pour amener les fonds. Si on interroge de plus près les cas d'hésitation entre plusieurs lieux de conservation, on peut tirer quelques constats. Je prendrai deux exemples. Donc, l'Union féminine civique et sociale, dont j'ai déjà parlé, qui est un mouvement féminin, pas féministe, féminin, et qui est aussi un mouvement d'éducation populaire, a longuement en fait hésité sur la destination de son fonds. Elle a mis en concurrence, si je puis dire, différents centres. En tout cas, elle a réfléchi longuement. Hein. Et finalement, elle a choisi de confier son fonds au Centre des archives du féminisme, car, je cite, « on trouvait qu'à ce moment-là, c'était très bien que tout ce qu'on avait fait pendant 85 ans en tant qu'association de femmes soit aux archives du féminisme. Et là, on a fait le don. » Fin de citation. Elles nous disent aussi « ce qui est essentiel et vital, c'est d'être un mouvement de femmes. » Alors, un autre cas d'hésitation, qui est Pierre Simon, qui a fait de la répartition de son fonds d'archives un acte de revendication identitaire, en choisissant de l'éclater, en fait, entre plusieurs lieux de conservation, en l'occurrence entre la Grande Loge de France et le Centre des archives du féminisme. Et il s'agissait pour lui de revendiquer son parcours comme gynécologue obstétricien, cofondateur du mouvement français pour le planning familial, et aussi grand maître de la Grande Loge de France, mais aussi et surtout de s'imposer comme acteur, à sa manière, du mouvement féministe, dans un contexte de conflit avec d'autres acteurs qui lui dénient la qualité de féministe. Donc donner ses fonds au Centre des archives féminisme, ça montre bien que oui, il est féministe. Entre le déposant donateur et le dépositaire, au moment de la remise de papier, se conclut donc un pacte informel. La question du respect des caractères identitaires, voire idéologiques ou doctrinaux du fond, et en même temps des parcours militants personnels qui y sont consignés, est fondamentale. Si les donateurs choisissent le CAF, c'est parce que le centre, promu par une association identifiée comme féministe, tout en ne l'étant pas, leur paraît fournir un environnement légitime et légitimant pour accueillir leur action et leur parcours militant. La relation de confiance est suffisante pour donner procuration du militantisme et l'onction universitaire fonctionne comme un gage d'objectivité entre les courants qui peuvent être parfois aussi, bien sûr, conflictuels. L'institutionnalisation donc de cette démarche dans ce cadre universitaire rassure sur la pérennité du projet, rassure sur l'objectivité, je l'ai dit. Le donateur est alors en situation de pouvoir confier au centre l'autorisation d'effectuer certaines tâches, la licence, mais aussi une fonction morale, le mandat. Or, c'est bien le mandat qui va justifier l'impulsion de départ donnée, mais donnée dans un cadre féministe. S'il existe en France des tentatives d'archivage que je qualifierais de radicales, qui cherchent à lutter contre l'élitisme archivistique traditionnel, elles restent très limitées et elles ont des difficultés en fait à perdurer. Le Centre des archives du féminisme s'en distingue nettement et à ce titre ne peut être considéré justement comme un centre d'archives communautaires. S'il cherche à contrôler la chaîne archivistique, ce n'est pas pour écrire une histoire militante, mais pour écrire, avec tous les guillemets aussi, l'histoire. La présidente Christine Barre est d'ailleurs très claire sur le projet, rejetant une approche communautarisée de l'histoire, revendiquant la position de l'archiviste et du chercheur comme une position critique à l'égard des sources et de toutes les tentatives de révision de l'histoire par les actrices elles-mêmes. Notons au demeurant que dans le cas du Centre des archives du féminisme et en comparaison avec des centres d'archives de communauté, le processus est inversé. Le don ou le dépôt interviennent après l'écriture de l'histoire militante et non avant. Mais du point de vue des donatrices, l'enjeu est bien la transmission intergénérationnelle. Elles cherchent bien à perpétuer et à ressourcer leur lutte. Et en cela, elles poursuivent bien des objectifs qu'on pourrait qualifier de communautaires. Cette transmission est profondément fondée sur un malentendu. Les donateurs, les donatrices espèrent transmettre leur militantisme, alors que les lecteurs auront des motivations bien différentes. Je vous ai mis deux citations. Donc, la première, c'est une donatrice qui, rétrospectivement, quand on l'interroge et qu'on lui dit bah, « finalement, si vous aviez à refaire la démarche aujourd'hui, est-ce que vous changeriez quelque chose ?» par rapport au contrat. Et en fait, elle dit donc qu'aujourd'hui, elle aimerait bien rajouter une clause, mais une clause qui oblige finalement le centre qui accueille les archives à régulièrement, voilà, une fois par an, une fois tous les deux ans, au moment où on classe, enfin, à régulièrement, reprendre contact avec les donateurs, parce que ce qu'elles aimeraient savoir, en fait, c'est si le fonds est utilisé, si ce pourquoi elles l'ont donné et au final se traduit bien dans la réalité. L'autre citation, c'est donc aussi une donatrice. Voilà, cela me fait penser à l'image de. Alors, je vous ai pas ramené. Enfin, j'aurais pu vous ramener les faire écouter, mais ça, j'aurais eu beaucoup moins de temps pour parler. Alors, j'y ai renoncé parce qu'évidemment. La manière de le dire a une importance. Cela me fait penser à l'image de ma sœur arrière-grand-mère pour Noël avec son 11e ou 15e petit-enfant. Ça fait plaisir à l'arrière-grand-mère de voir son arrière-petit-enfant. Et là, c'est un peu nous. Et elle renvoie la question. Vous, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qui en ressort? Bien que fondée sur un malentendu, donateur et récipiendaire s'y retrouvent. Car au moment où les papiers changent de main, passe de la responsabilité de leur propriétaire naturel ou producteur à celle d'une organisation extérieure, eh bien ces papiers acquièrent le statut d'archive et il s'opère une double légitimation. Celle du donateur, reconnu par un centre d'archives, et aussi celle du centre d'archives qui se voit conférer un mandat. Et dans le fait de transférer les documents d'un espace privé à un espace collectif, dont la vocation quand même finale est bien de communiquer, dans un lieu d'autorité, se joue aussi un autre enjeu, devenant accessible et en même temps soumis à une procédure de communication inhérente à la conservation dans un dépôt public, les papiers revêtent une nouvelle identité, ils deviennent archives et passent du statut de papier personnel et avec aussi l'apparence de ces papiers personnels et de ces formes de dossiers, de semi-vrac, etc., à celui de documents d'identité collective. Investi par les acteurs d'objectifs de militance continuée, cette mise en archive est aussi une mise en patrimoine. Et bien que rejoignant souvent les rayonnages d'organismes de conservation privés, les archives militantes participent ce faisant d'une mémoire instituée dans l'espace public.